et 16. Vous avez 6 minutes. Merci, Madame la Présidente. En ce qui concerne les articles 15 et 16, alors je ne vais pas aborder certaines questions qui ont déjà été abordées dans le cadre de l'article 5, mais je vais reprendre d'autres questions, notamment la loi sur le statut personnel. La délégation a précisé que le système de tuteur masculin a été éliminé et que des femmes sont à même de prendre toutes les décisions qu'elles souhaitent sur leur vie. Or, nous avons les informations selon lesquelles de nombreuses entités publiques et privées continuent à exiger un tel permis, une telle autorisation d'un tuteur. De quelle manière l'État parti évalue-t-il le respect de la loi? L'État parti applique-t-il des sanctions aux entités publiques ou privées qui poursuivent la pratique discriminatoire d'exiger une autorisation d'un tuteur pour permettre aux femmes d'accéder à tout service ou programme? Qu'en est-il du processus de renforcement des capacités en la matière? Est-ce que l'on renforce les capacités des fonctionnaires? Pour ce qui est du caractère exceptionnel de mariage pour les personnes de moins de 18 ans. Ce matin, vous avez précisé que seuls les tribunaux autorisent des cas exceptionnels pour des raisons très spécifiques et justifiées, garantissant que l'on n'entraîne aucun préjudice pour le mineur et que l'on reste à l'écoute de la mère. Je souhaiterais savoir, quels sont ces cas exceptionnels? Quels raisons peuvent justifier le mariage d'une personne mineure alors que le simple fait qu'il s'agisse d'un enfant ou d'un adolescent est déjà une raison suffisante pour ne pas le faire et cela va à l'encontre de son intérêt supérieur. Ce sont parfois les familles, les mères même qui encouragent les filles et les adolescentes à se marier. Quel travail de sensibilisation et d'éducation est accordé aux familles à ce sujet? Quels en ont été les effets? Est-ce que les juges suivent des formations en la matière pour pouvoir échapper aux stéréotypes dans le cadre de leur jugement? Cette loi prévoit également que les hommes reçoivent un héritage bien plus élevé que les femmes. Je ne vais pas m'attarder sur cette question, notamment sur la répartition, mais je voudrais savoir si l'État parti a prévu de modifier la loi pour que les femmes et les hommes aient les mêmes droits en matière de succession. Vous avez également précisé que la loi n'impose pas l'obéissance aux femmes et vous avez précisé que cette obéissance n'est pas non plus absolue. Or, l'article 42 de la dite loi précise que les femmes mariées doivent obéir à leur mari de manière raisonnable. L'entretien financier du mari dépend de l'obéissance de la femme. Les rapports précisent qu'en vertu de cette disposition, un grand nombre de maris empêchent leurs femmes de suivre des études, de travailler ou même de sortir du domicile pour des raisons dites morales. Les femmes risquent de perdre leur droit à un entretien financier. Elles sont parfois obligées de voyager avec l'homme, de rester à la maison ou de se soumettre à des relations sexuelles. Le consentement de l'épouse ne semble pas être nécessaire. Pour permettre, c'est-à-dire l'homme peut se remarier. Les hommes musulmans peuvent se marier avec des femmes chrétiennes, juives ou musulmanes, mais l'inverse n'est pas le cas. Quelles sont les mesures de prévention et de sensibilisation qui peuvent être adoptées pour permettre d'accorder aux femmes une égalité des droits lors du mariage et déroger des dispositions qui obligent les femmes à obéir à leur mari? Et enfin, seuls les hommes ont le droit de lancer une procédure de divorce de manière orale ou par écrit. La loi évoque uniquement le droit de l'épouse d'être informée. Les femmes n'ont aucun droit de mettre un terme de manière unilatérale à un mariage. Et les femmes n'ont droit à aucun type d'aide économique de la part de leur mari suite au divorce, quelle que soit leur contribution apportée à ce mariage. Suite au divorce, l'on concède automatiquement la garde à la mère jusqu'à ce que l'enfant atteigne 15 ans. Mais le père continue à être le tuteur légal de l'enfant et il a le pouvoir de prendre des décisions essentielles sur la vie de l'enfant. Quelles modifications législatives sont prévues par l'État parti pour permettre aux femmes d'atteindre ou de vivre le divorce sur un pied d'égalité avec les hommes? Comment l'État parti a-t-il prévu de garantir que tant lors du mariage que suite à la séparation ou fin du mariage, les femmes et les hommes aient la même capacité de prendre des décisions relatives à leurs enfants? Pourriez-vous préciser si sa loi relative au statut personnel est appliquée également aux populations non sunnites ou si les femmes non sunnites font l'objet de systèmes juridiques distincts avec des droits différents? Je vous remercie.